Salut les amis.
Salut Charline.
Dis Juliette, Alex n'est pas là, mais je crois qu'il a commencé à bosser sur notre invitée Nina Bouraoui. Tu peux chercher sur son bureau, s'il te plaît.
T'appelles ça un bureau là. Hein? Je pense qu'on est plus sur le taudis. René, regarde-moi le bordel.
Ne commence pas avec le mauvais esprit, Guillaume. Bon, là, tu trouves Juliette?
Enfin, c'est vrai que c'est un foutoir sans nom ce bureau.
Hésite pas à mettre un masque et des gants, tu vas choper un truc.
C'est ça là. Ah non, alors ça c'est Femme Mature Magazine.
Ah, c'est pas ça. Ouais.
Non, bon alors ça c'est la bio de Michel Thorne. Il y a un truc qui me colle, ça me dégoûte. Colle le clavier.
Ça doit être sa crème hydratante parce que Alex, il a la peau qui dessèche à l'automne.
Crème hydratante, on peut tomber enceinte par les doigts ou
comment
ça se passe?
Je vais vomir dans ma bouche.
Attends, laissez tomber. Je vais vous résumer la situation. Nous recevons une grande écrivaine, capée.
Ah, capée, elle a fait du foot, donc ça.
Écrivaine. Concentre-toi.
Oui,
capée, ça veut dire titrée.
Oui,
si
titrée.
Voilà.
D'accord.
Prix du livre Inter, prix Renaudot, traduite en plus de 15 langues, des romans, des essais et même des chansons pour Céline Dion.
Ah ouais,
alors ne vous avisez pas de me foutre la honte.
Bien sûr que pas. On a super révisé avec Guillaume.
Bah oui, évidemment.
Parfait. Très bien. Interrogation surprise. Alors, dans ce
cas-là.
À propos de son livre, Tous les hommes désirent naturellement savoir, Guillaume.
Ah non, mais pourquoi c'est moi en premier là?
Parce que voilà, où se situe l'action du livre?
L'action du livre. Alors déjà, ça dépend ce que t'entends par action. Parce
Juliette. Alors en Algérie et puis après à Paris.
Voilà. Merci Juliette. Bravo.
Oui,
là. Tu vas remplir ta boîte à bon point.
Hein, oui.
Guillaume, quand se situe l'action du livre?
Encore moi, mais c'est inique, putain.
Moi, madame.
Oui, oui.
Alors, ce sont des allers et retours entre l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune adulte de Nina Bouraoui.
Guillaume.
Oui, ben ça va.
T'as la journée pour lire le livre.
Et moi, moi je fais quoi moi?
Toi, va te laver les mains parce que quand même avec la crème là, on sait jamais.
Ouais, on peut tomber enceinte par les doigts.
C'est vrai.
Bonjour la France Inter, bienvenue à l'écoute du service public de radiodiffusion dans une émission qui pratique l'humour subventionné. Alors voici les trois actualités qui vont créer de la dette. Une classe de lycéens a refusé de lire un livre parce que l'auteur n'est pas français et qu'il y a des mots arabes dedans. Le romancier est pourtant franco-algérien et il ira rencontrer les élèves, heureusement.
C'est papa qui a raison, il y a trop de noirs en France.
Voilà. L'argot, c'est la langue de la survie. Dans les tranchées, le corbillard était appelé la voiture à viande à des fins de catharsis. L'argot a donc fleuri dans la boue parmi les soldats et le brassage social et culturel.
On en a ras la caprine. On n'est pas des torche-cul.
La joueuse de tennis, Ons Jabeur, venait de gagner son match de tennis, mais elle a continué à jouer. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle était trop concentrée. Apparemment, c'est propre au tennis.
Je préfère que vous ne parliez pas parce que j'ai l'habitude de m'entraîner avec des machines lance-balles et ça me déconcentre du coup.
Pour me consoler de l'absence d'Alex, voici Juliette Arnaud.
Oui,
bonjour.
Alors aujourd'hui, devinez quoi Charline? Une belle équipe, mieux. Une sacrée équipe, voire une équipe sacrée en toute simplicité. La Sainte Trinité, tout d'abord le Père, Thomas Croisière. Celui qui, malgré son état de roue, saura, je n'en doute pas, être celui qui est éternel. Thomas, de quoi parle-t-on aujourd'hui?
Je préfère ne pas en parler maintenant pour pas qu'on m'empêche de parler tout à l'heure.
Ouh là 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 là.
Je connais vos méthodes.
Très bien, ensuite, le fils, bien sûr, Guillaume Meurice, l'alpha et l'oméga de tout, le premier et le dernier, celui qui, en tout cas, aura le dernier. Deux mots.
Oui, oui, il me semble que c'est bien résumé.
C'est ça, hein.
Alors moi, je suis allé au grand rendez-vous de la cosmétique aujourd'hui et je vais vous parler des nouvelles innovations qui vont changer la face de votre face.
Du packaging connecté.
Oh, du packaging connecté, putain, comment on faisait avant? Fou ça.
Donc après le père, le fils, forcément, le Saint-Esprit, Clara Dupont-Mono, c'est-à-dire le souffle de Dieu, parce que si tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, certainement pas le blasphème contre Clara.
C'est exact. Bonsoir Juliette.
Alors
c'est parfait.
On va parler du livre bouleversant de notre invité. Et oui, voici celle qui va poétiser notre open space. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Nina Bouraoui.
Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue dans Par Jupiter, Nina Bouraoui.
Merci.
Votre livre s'intitule « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est paru chez Jean-Claude Lattès. Vous travaillez la question de l'identité à travers toute votre œuvre. Votre identité géographique, une mère bretonne, un père algérien. Votre identité amoureuse, l'attirance pour les femmes. Et votre roman, ici, est construit de telle sorte qu'on balance d'un chapitre à l'autre entre votre enfance et vos premiers pas d'adulte dans un club underground, on peut dire.
Underground.
Juliette, une première question avec laquelle je suis totalement en accord.
Oui, c'est-à-dire que je suis arrivée au bureau tout à l'heure et on est tombé d'accord sur le fait suivant avec Charline. Votre roman, alors que c'est pratiquement votre 10e
16e.
D'accord, c'est votre 16e. Il sonne, en tout cas, il résonne pour nous, lectrices, comme un premier roman, ce qui est une immense qualité.
Pour sa fraîcheur.
Sa fraîcheur et l'impact qu'il a sur nous. L'impact un peu dévastateur, c'est-à-dire qu'on regrette de ne pas avoir 19 ans et d'être lesbienne.
Alors ça me fait plaisir pour plusieurs raisons, parce que mon premier roman, j'avais 24 ans, aujourd'hui j'en ai un peu plus du double, alors c'est bien, vous me rajeunissez. Deuxième raison, c'est que ce roman, hélas, a une forme de modernité. Moi je ne pensais pas revenir sur mes premières amours et raconter combien il est important d'avoir et d'être fier d'avoir de culture, et combien l'homosexualité n'est pas un choix ni une perversion, mais une nature humaine. Et d'ailleurs, je ne parle pas d'attirance, mais d'amour, comme une femme peut aimer un homme, comme deux hommes peuvent s'aimer. Une attirance, c'est quelque chose de temporaire. Être homosexuel est une véritable épopée, et c'est ça que j'ai voulu raconter. Pour ne jamais oublier qu'un adulte homosexuel a été un enfant homosexuel, et j'ai écrit aussi pour ces adolescents-là. C'était important. Donc oui, c'est un premier roman, vous avez raison.
Et c'est très agréable, c'est vraiment très très agréable de sentir ça.
Oui. Justement, les jeunes sont portés aussi vers les premiers romans. Donc, en écrivant, vous aviez conscience que ce roman, vous lui donnez peut-être presque un rôle un peu social qui tombe entre les mains de jeunes qui se posent des questions et qui peuvent le vivre difficilement.
Oui, oui, mais tout mon travail a été ainsi depuis le début. Finalement, je crois que je me suis toujours défendue. J'ai souvent dit que j'étais pas militante, j'étais pas engagée, mais en fait, j'ai fait que mentir. Je pense que je suis une vraie révolutionnaire parce que mes parents étaient deux révolutionnaires. Ils se sont rencontrés pendant la guerre d'Algérie, mère française, père algérien. Et puis ma mère fait le voyage à l'envers. Quand tous les Français quittent l'Algérie, elle arrive en Algérie et elle essaye d'épouser ce pays, de l'aimer, en tout le cas de se faire aimer. Elle l'aime. Elle n'est pas aimée tout de suite, mais elle se fait quand même aimer. Et en tous les cas, elle nous apprend avec ma sœur cette terre hypnotique, fabuleuse et aussi dangereuse. Vous savez, quand on écrit un roman, on n'a conscience de rien. Aujourd'hui, je m'aperçois que ce roman m'a appris quelque chose, m'a appris que j'étais bien plus fragile que je ne le croyais. C'est un roman qui me déstabilise beaucoup parce que c'est la première fois que je parle autant de mon intimité et de ses fêlures. Et c'est la première fois que je me rends compte qu'aujourd'hui, encore, en 2018, être un homosexuel peut être dangereux. Tous les jours, hélas, nous avons des témoignages de violence. Et je suis... à la fois, je suis très fière, parce que tant mieux si je rentre dans la solitude d'un adolescent, que la porte de sa chambre s'ouvre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des associations telles le Refuge, qui accueillent des jeunes en détresse dans la rue, parce que les parents ne veulent plus d'eux, quand ils apprennent leur identité sexuelle. Alors, je crois que, c'est un long chemin. La littérature est un long chemin. C'est mon 16e livre. J'ai l'impression de bâtir un édifice amoureux, de toujours me remettre en danger, toujours me remettre en question. Je ne sais pas si j'avais à la fois à l'esprit l'enjeu de ce livre, mais aujourd'hui je sais que oui, c'est un livre presque d'action.
Édifice amoureux envers les livres aussi, et je vais me permettre de lire un extrait sur la relation avec votre mère, la relation de votre mère avec les romans. C'est un aspect que Clara Dupont-Mono va développer tout à l'heure. Elle tient ses romans contre elle, il ne faut pas la déranger. Quand elle ferme les yeux, j'ai l'impression qu'ils s'endorment ensemble, chair contre chair, que les livres sont vivants. Elle lit Yves Navarre, Jean-Louis Borry, Wilhelm Reich, elle corne les pages, souligne des passages, casse ses livres, ouvre la tranche comme on ouvre un corps, des jambes, elle les possède, les relit, les cite de mémoire, les collectionne, il mange l'espace de l'appartement, la bibliothèque, la chambre, la cuisine parfois, elle ne les oublie jamais, ne les prête pas, elle les donne comme s'ils étaient une parcelle de sa peau. Alors, vous êtes écrivain, grâce à la relation presque charnelle qu'entretient votre mère avec les livres, ou aussi du fait du déracinement. Ou aussi, est-ce que vous n'auriez pas été écrivain si vous n'étiez pas homosexuel ?
C'est pas votre question, il y a toutes les réponses. Parce que je crois
c'est pas mon habitude.
C'est vrai. Parce que je pense pour toutes ces raisons. En fait, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un milieu où on lisait beaucoup, où le livre avait une place très importante. C'était les années 70. Il y avait beaucoup de débats d'idées à la maison. Mes parents étaient ce qu'on nommait des intellectuels, des universitaires, qui se prenaient pas au sérieux, mais quand même, l'idée, la politique, c'était important. Il y avait quelque chose comme ça de très magnétique. Et moi, je voulais faire comme eux. Je me disais, voilà, apparemment, le papier, les livres. Et puis, ma mère, la fascination que j'avais pour elle, Souvent, j'étais assez jalouse de ces temps de lecture parce que c'était des temps qui étaient contre moi. Moi, j'étais très accrochée à elle. J'étais un peu une enfant enfermée de l'intérieur parce que plus ça allait, plus je me rendais compte que j'étais une enfant différente des autres. Et je voyais la réaction des autres donc qui creusait en moi une forme de solitude. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à 18 ans dans ce club de femmes au Katmandou, rue du Vieux Colombier, j'ai su que je deviendrais un écrivain d'abord pour une mauvaise raison, plutôt triste. Je me suis dit que si j'écrivais, si j'arrivais à être publiée, parce que j'écrivais depuis l'enfance, je savais que c'était ça, mon moyen de m'exprimer, d'aborder et de m'inscrire dans le réel, parce que le réel me semblait parfois un peu trop étroit ou trop large pour moi, je n'y avais pas ma place. J'ai pensé qu'on me pardonnerait mon homosexualité. Si j'étais une artiste et si j'évoluais, que ce monde-là serait certainement plus doux que le monde de l'entreprise ou que le monde des fonctionnaires ou que le monde...
De la Startup Nation.
Parce que plus anonyme et plus ouvert, c'est pour ça que j'ai écrit, au début. Et après, pour conquérir les cœurs, ça je l'avoue aussi.
Tous les hommes désirent naturellement savoir. Nina Bouraoui, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. Chic, elle est avec nous jusqu'à 18h.
C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne.
Et oui, à venir un journal avec du Méluche dedans, Nina Bouraoui, accrochez-vous. Et pour Méluche, Song for Jedi et Dionysos.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. J'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau s'est transformée en pyrogravure.
Et Nina Bouraoui est en notre compagnie. Juliette Arnaud, qui pour l'accompagner?
Alors, Thomas Croisière.
C'est vrai, il est là.
Voilà. Oui. Guillaume Meurice.
Oui, bien sûr, je suis là.
Et heureusement, Clara Dupont-Mono est là.
Ah, merci. Ouais.
Nina Bouraoui, c'est le moment de l'actualité.
Ah.
D'accord.
Sérieuse.
Il n'y a pas d'affaire. Il y a juste une volonté de salir.
Le journal de presque 17h17.
Monsieur Macron est un petit personnage.
Arrêtez de vous exciter comme ça sur cette affaire.
Et on commence avec les titres.
Oui, les suites de la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon. Il s'est moqué de l'accent d'une journaliste.
Oui, bah évidemment, avec le vôtre, ça vous touche, Charline, bien
sûr. Bah oui, mais pas vous.
Moi touché. Essayez de me toucher pour voir, essaye.
Calmez-vous. Ouais. On reviendra aussi sur Francis Lalanne, qui en intégrant la réserve de la gendarmerie, s'est mis au service de la République.
Non, la République, c'est moi.
seulement à la République.
Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce, est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, il y en aura, car les brèves, c'est sacré. C'est comme Jean-Luc, c'est sacré, les brèves, d'accord. Enfoncez-moi cette porte, là. C'est sacré, la République.
Excusez-moi. On commence avec un salut confraternel à un ancien collègue, un certain Patrick Cohen. Je crois que Clara va pas s'en remettre. Un certain Patrick Cohen qui était de retour hier dans l'émission C'est à vous sur France 5 avec un plâtre.
Oui, il a été opéré cet après-midi. Oui, non, mais c'est extrêmement vaillant et de venir ce soir participer à l'émission. Merci, ce sera l'occasion de rappeler que les accidents de trottinette se sont multipliés ces dernières semaines.
Il s'est cassé la gueule en trottinette, le patoche. Il a suivi les audiences d'Europe 1, en fait, en tout simplement.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Chute ridicule toujours. Un sondage pour les élections à la mairie de Barcelone donne Manuel Valls bon dernier.
Mais c'était bien la peine de lâcher Benoît Hamon pour finir en Jacques Cheminade.
En effet, ridicule encore.
Jean-Luc Mélenchon circus la suite.
Oui, donc hier à l'Assemblée nationale, il a snobé une journaliste en méprisant son accent.
Et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Hein. C'est vraiment terrible.
C'est vrai que c'est pas à vous que ce serait arrivé, Charlie.
Bah, nenni, hein, parce que j'ai pas d'accent. Hein.
Bah, non, mais c'est ce que je dis, on enchaîne.
Donc, ouais, bah, on enchaîne, hein, fameusement. Oui.
Voilà, on enchaîne. Fameusement avec l'environnement.
L'association Zero Waste France porte plainte contre deux McDonald's et KFC parisiens accusés de ne pas trier leurs déchets.
Oui, mais les gars, suivez l'exemple de Thierry Ardisson. Les déchets, on les jette pas, on les met autour d'une table à discuter. On appelle ça une mission de débat.
Environnement toujours.
C'est compliqué quand même.
Les palourdes sont en voie de disparition dans l'étang de Ber.
Par contre, elles sont loin d'être en voie de disparition lors des défilés de haute couture.
Hein?
Les palourdes.
Raymond DeVos, si tu nous écoutes, reste où tu es.
Ouais, alors on va peut-être enchaîner avec la culture.
Oui, Frédéric Mitterrand va lire ses propres textes sur scène.
Ah, ça va être très beau, hein. Comme diraient les petits Thaïlandais, attendez-vous à être très touchés. International, à présent.
Oui, international. L'Iran confirme l'interdiction aux femmes d'accéder au stade de football.
Denis Balbir vient de demander la nationalité iranienne.
Et dans une interview sur CBS, Donald Trump a déclaré « Je sais que les gens ne me voient pas comme ça, mais je suis un écologiste ».
C'est vrai qu'on voit pas bien quel est le point commun entre l'écologie, les insultes racistes et le sexisme.
Bah si.
Quoi ?
Bah, Jean-Vincent Placé.
Ah bah oui, c'est vrai, ça marche, alors d'accord.
Ouais.
Puisqu'on parle code pénal, tiens, revenons sur l'engagement de Francis Lalanne dans la réserve de la gendarmerie, on en a parlé hier, mais alors ce matin, il a fait sa première intervention sur le lieu d'une prise d'otage.
Ah, wow.
On
écoute
la négociation.
D'accord.
Pense à moi, comme je t'aime, et tu me délivreras.
Merci Francis, merci beaucoup. C'est efficace, le forcené s'est rendu sur le champ, les mains en l'air et les oreilles qui saignent.
Petit instant promo à présent, Alain Juppé sort un livre intitulé « Le dictionnaire amoureux de Bordeaux » pour, dit-il, bousculer son image austère.
Oh le déglingo ! Oh le fou !
Il est fou.
Oh, c'est tout Alain ça, dans une semaine il tente le salto arrière en trottinette.
Ouais, dans trois semaines il est comme Patrick Cohen.
C'est vrai. Technologie à présent, Google va proposer en France ses écouteurs intra-auriculaires qui permettent de traduire des conversations en simultané.
Bonne nouvelle, on va enfin piger les discours de Jean Lassalle.
Et oui, on termine avec deux brèves.
Oui, une première qui se passe en Chine pour frauder l'assurance. Un Chinois se fait passer pour mort. De désespoir, sa femme tue ses deux enfants et se suicide.
Répond à ça Xavier Dupont de Ligonnès.
Une dernière ?
Oui, encore une belle histoire de famille.
Oui, ça se passe aux États-Unis. Une lycéenne a confectionné des cookies avec les cendres de son grand-père.
C'est véridique. C'est vrai qu'on peut critiquer, mais contrairement à Laetitia Hallyday, elle partage les restes des défunts de sa famille.
C'est l'humour de catharsis. C'est la catharsis. C'est l'humour noir, c'est la catharsis.
La catharsis.
Nina Bura, oui, surtout restez avec nous, ne partez pas. Vous non plus chez vous, ne partez pas. Il est 17h27 à Rennes et il est 16h27 à Alger. Nina Bura, oui, voici ce premier sujet. C'est une enseignante de la Somme, calmez-vous Clara, une enseignante de la Somme qui a demandé à ses élèves de lire Le porteur de cartable d'Akli Tadjer. Les adolescents ont dit non. Non. Parce que l'auteur n'est pas français, disent-ils. Parce que l'histoire ne concerne pas la France, tiens donc. Et il y a des mots d'arabe dedans. Ouh là là, attention.
Ah oui.
Et Sam, dame, c'est pas notre kiff. Ah zut, kiff ça, moi, arabe.
Ben
allez,
non.
Plongeons-nous dans cette classe.
Moi, je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les arabes et de tous les noirs. Enfin, de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, bah, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Enfin, je sais pas, enfin, peut-être.
Je comprends, Guillaume. Parfois, on dit des choses et on se rend pas forcément compte, mais ça peut être très grave. Hein.
Moi, je sais pas, c'est mon père, il dit ça tout le temps, alors...
Mais c'est pas une raison pour le répéter. Ton père pense ce qu'il veut, et toi, tu dois apprendre à te forger ta propre opinion.
Nos jours heureux, le film d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Alors l'enseignante a contacté l'auteur franco-algérien, dont le thème du livre c'est la guerre d'Algérie, la rencontre en 62 de deux enfants, l'un soutien du FLN, l'autre pied noir de retour en métropole. Alors Corinne Bouraoui, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous auriez envie de... Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ces élèves si vous les aviez là en classe, voilà, vous qui êtes écrivaine entre la France et l'Algérie.
Ça fait énormément de peine pour l'auteur, déjà pour l'écrivain, pour ce qu'il est. Et ça veut dire aussi que la jeunesse n'est pas garante d'intelligence, de tolérance, de douceur. C'est l'éducation, ce sont les parents, l'école, beaucoup. Et je crois que... Mais ça rejoint... je crois que le mot pédéguine, ce sont deux mots qui sont le plus employés dans les cours de récréation, parfois sans même connaître la signification. Et parfois, l'intention n'est pas peut-être un mot homophobe. Je crois que ça veut tout dire de la sauvagerie de l'adolescence, la sauvagerie de l'enfance. Et je crois que grandir, c'est être une herbe folle. Il faut des coups de sécateur, il faut... Je crois que c'est Gainsbourg qui disait, mais voilà, Charlotte était comme une rose, et il disait, je la taille un petit peu. Et je crois que c'est vraiment... peut-être que le professeur, en tous les cas, de cette classe, a une future responsabilité, non pas de laver les cerveaux, mais d'instruire et de dire... Je crois qu'ils n'étaient même pas au courant que l'Algérie avait été colonisée, avait été française. Mmh. Donc c'est, je crois que l'éducation nationale... Enfin, il y a quelque chose là avec, avec la culture, notre histoire. Je trouve qu'on dit qu'on a fait tant de progrès technologiques, mais on a l'impression que... Ces enfants-là, nos enfants, même si je n'ai pas d'enfants, mais nos enfants. Mmh. Je suis une mère symbolique parce que je pourrais avoir des enfants et on a l'impression que le réel, il n'habite plus le réel. Voilà, parce que c'est un excès de virtualité fait que la douceur et la compréhension, la tolérance. Et ça va pour les nationalités, ça va pour les homosexuels, pour tout.
Et le sens de l'histoire aussi, Nina. Il y a aussi c'est là où on voit l'apprentissage de l'histoire. Quand effectivement, la professeure déclare à Akhli Tadjer, l'écrivain, que les élèves lui ont dit « Ah ben, l'Algérie, ça concerne pas la France », en oubliant complètement toute l'histoire franco-algérienne. La Picardie aussi, ça se passe dans la Somme. Il l'a rappelé, l'écrivain, en disant que c'était une terre gorgé de sang, de tous les soldats maghrébins qui sont venus lutter au moment de la Première Guerre mondiale. Je veux dire, c'est l'histoire. Qui sait d'où il vient, sait où il va. Et là, ce sont l'apprentissage de l'histoire là est plus que jamais indispensable.
Et la rencontre aura lieu donc entre l'auteur et les élèves. Nina Bouraoui, à 7h06, 17h31, nous accueillons Thomas Croisière.
Enfin, nous accueillons, c'est un grand mot. Il est quand même, il a tapé à la porte.
Par Jupiter présente. Le cinéma de Thomas Croisière.
Super, Charline. Déjà que M. Vizorek ne se donne même plus la peine d'assister à mes chroniques. Il se fait remplacer par un vague sosie capillaire, Juliette. Puis là, bravo. Même mon jingle sait que je suis chroniqueur cinéma dans l'émission. Et vous m'invitez, Nina Bouraoui, une écrivaine. Et pas n'importe quelle écrivaine, puisqu'elle a écrit 16 livres, dont aucun n'a été adapté au cinéma. Si ça, c'est pas vrai. Fait exprès pour me nuire. De toutes les façons, Antoine Decaune m'avait prévenu du complot contre moi. Écoutez.
Oui Thomas, salut, c'est Antoine. Écoute, on m'a interdit de t'en parler, mais on m'a dit de faire un maximum d'invités cinéma dans Pop, pour que toi t'aies plus personne à chroniquer. Je peux pas épiloguer là-dessus. Et je suis désolé, je t'embrasse.
Nina, vous savez combien il y a eu de chroniques dans Par Jupiter depuis le début de l'année ?
Non,
797. Et vous savez combien de fois j'ai été invité ?
Dites-moi.
8. 8 fois.
8.
Voilà, je représente moins de 1% du temps de chronique de cette émission. Regardez, les chiffres sont accablants. Je suis la toute petite tache jaune dans le camembert. Même Toba Bidguin a été invité 2 fois de plus que moi. Et si Thomas savait écrire, bah il aurait eu le Lion d'Or au Festival de Venise, pas celui tout pourri en argent. Vous savez que Pablo Mira a été invité 4 fois plus que moi. Vous allez pas me dire qu'il est 4 fois plus drôle que moi, Pablo Mira, Charline, sérieusement. Moi, 8 invitations, Isabelle Sorrente, 20. Quelqu'un a déjà compris quoi que ce soit à ce que raconte Isabelle Sorrente ? Moi, non. Vous savez combien de Frédéric sont nés depuis 1900? 322 873. Et vous savez combien de Thomas sont nés depuis 1900? 299 624. Ça fait 23 249 Thomas de moins. Et pourtant, nous avons dans l'émission un seul Frédéric, Frédéric Fromet, pour trois Thomas, Bidguin, Croisière et VDB. C'est pas fait exprès pour créer de la confusion chez nos auditeurs, ça Charline? Et ça ne s'arrête pas là. Vous savez combien de mes chroniques ont été relayées sur le Facebook de France Inter depuis la rentrée?
Non.
Aucune. C'est simple, c'est 1000 milliards de fois moins qu'Hippolyte Girardot. Oui, 1000 milliards fois zéro, bah ça fait zéro. Il y a d'abord eu Patrick Cohen, dont vous venez de parler avec méchanceté, et maintenant il y a moi. Vous savez comment je le sais? Mais parce qu'il me l'a dit, Patrick Cohen. Écoutez.
Salut Thomas, c'est Patrick Cohen. Je voulais te dire, méfie-toi. Méfie-toi. Ils ont d'abord eu ma peau à Inter et je sais que tu es le prochain sur la liste. Ne fais confiance à personne. Tu m'entends, personne. Bon courage Thomas, je t'embrasse.
Ouais. Et là vous allez me dire que j'ai dépassé mon quota de 3 minutes 30 et que ce serait bien de conclure. Mais non. Non seulement parce que ma personne est sacrée, mais aussi parce que Guillaume Meurice, qui est là 4 fois par semaine, explose allègrement les 5 minutes à chaque fois. Alors pourquoi moi, qui ne viens qu'une fois par mois, j'aurais pas le droit, hein? Parce que je ne partage pas vos idées, peut-être. Guillaume, défenseur des causes perdues, a bien sûr tenté de dénoncer votre complot. Mais écoutez plutôt. Enfin, écoutez Guillaume.
Non mais moi Thomas, j'ai voulu dénoncer le complot, t'imagines bien, on est amis, mais ils m'ont viré de l'antenne. C'est pour ça que j'étais absent à la rentrée, tu crois que c'était pourquoi? Voilà, moi j'ai des mômes, j'ai des pensions alimentaires, enfin j'ai une vie Thomas, je peux pas prendre ce risque-là, je suis désolé. Non mais je préfère me taire d'ailleurs, j'en ai déjà trop dit. Allez salut, oublie-moi, raye-moi de ta vie, d'ailleurs je te connais pas. Tu es? Appelle-moi. Ah, ça va couper, je passe sous un, ouais.
Voilà où on en est. Le livre de notre invité s'intitule « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Eh bien, vous savez quoi, Nina? Ils vont savoir, les hommes. Vous voyez la pub de la rentrée? Déjà, vous remarquez que j'en suis absent. Mais surtout, si on relaie les visages de Charline, Alex et Guillaume, cela donne quoi? Une pyramide. Pire, une pyramide dans laquelle les yeux de Charline sont l'œil de la connaissance. Ça ne vous rappelle rien? On enregistre au studio 611. Et donc 1 suivi de 1 plus 6 et 6 plus 1 puis 6, cela donne quoi? 1776, l'année de fondation des Illuminés de Bavière, les maîtres secrets du gouvernement américain. Pire, si je prends les lettres de Charline Van Hunaker et que je les remets dans l'ordre, en les changeant toutes, cela donne Iduit Coeptis. Comprenez? Ce que nous entreprenons sera couronné de succès, cri de ralliement des conspirateurs Illuminati. Madame Van Hunaker, ces actes vous colleront à la peau comme une infamie, car vous serez la première nommée sous le hashtag Balance ton Illuminati, car oui, je vais libérer la parole, car oui, vous ne me faites plus peur. Cette émission est un ramassis de complotistes. Radio France est truffée de cette élite qui nous a servi, dirigée par le premier d'entre eux. Monde de merde.
Moi, j'allais lui annoncer qu'il était viré, mais il s'est viré tout seul. Et définitivement. Thomas Croisière, mesdames, messieurs, dans ses grandes œuvres. À revoir sur franceinter.fr.
Il est mort.
Ça va, Edouard?
Allez, il est mort.
Edouard, reviens.
Incredible guy, but I got some incredibly edible lies. Big and bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. Grows in twilight, goes with nimble toes through crops and rows, designed to know the mortal dose of right and rose. For all the schmoes can't read the prose, just watching shows, don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine, cause real folks must hide. Cause so much in this world is fear and money, power and control and pride.
William G. Villain, Uncle Bill Goes Hi-Fi. Excusez-moi, j'ai un excellent accent.
English Institute.
Mais vous êtes jalouse, c'est tout.
C'est underground.
Excusez-moi. Nina Bouraoui est avec nous. Oui, elle est restée, toujours. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas par quel miracle elle est restée, mais c'est charmant.
Non, mais je vais accrocher la patte au siège.
D'accord. On va revenir à votre très très beau roman qu'on a adoré, Tous les hommes désirent naturellement savoir, paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Il y a tous vos films aussi.
Tous mes films.
Avant cela,
j'ai frôlé le cinéma. Pardon.
Guillaume... Non, oui. je vous en prie, Guillaume Berry.
Moi, je vais me lancer aujourd'hui dans une carrière de youtubeuse beauté. Je vais vous parler maquillage. C'est important aussi, c'est important dans les médias, le maquillage. Je vous rappelle que Michel Drucker, par exemple, est composé à 87% de maquillage. Il n'a plus de peau de visage, par exemple. C'est uniquement du fond de teint. Ça tient comme ça. Alors après, je dis pas que c'est obligatoire dans les médias, le maquillage. C'est vrai que Clara est resplendissante sans maquillage. On a l'impression qu'elle a 22 ans, elle est toute pimpante. Voilà. C'est seulement lorsqu'elle dirige Marianne avec Polony qu'on se rend compte qu'elle a effectivement 85 ans. Hein, quand elle parle, on entend le Moyen-Âge. Les chevaux qui avancent et tout, mais sinon pas de maquillage. Mais moi, je vais pas vous parler du passé, ni mettre Clara au chômage tout de suite, mais je vais vous parler de futur, parce que la cosmétique, voilà un secteur qui innove. Je suis allé me former au grand rendez-vous des professionnels du secteur, au Carrousel du Louvre. Et pour vendre de la cosmétique, il faut d'abord influencer les gens.
Nous développons le premier réseau mondial d'influenceurs. Nous sommes tous influenceurs. Un influenceur avec 100 abonnés influencera sa petite communauté dans son petit village. Nous allons digitaliser cette proximité à un niveau international.
C'est-à-dire que dans un village, vous digitalisez la proximité des habitants.
Exactement.
Mais peut-être qu'ils sont déjà proches naturellement, qu'il n'y a pas besoin de les digitaliser.
En effet, c'est possible. Mais pourquoi pas faire plus, toujours plus, aller de l'avant.
Ah oui, je ne dis pas le contraire, mais j'ai un petit côté vieux con là-dessus. C'est vrai que j'ai grandi dans un petit village et on n'était pas digitalisé à l'époque. On n'avait pas besoin de vendre nos données à Facebook pour se parler. Mais bon, j'arrête là parce que sinon je vais finir par présenter le trésor de TF1 ou être dans Marianne. Alors, allons de l'avant. Oui, on va pas faire tout non plus là-dessus. Allons de l'avant parce que nous, on se dit, bon, le maquillage, ok, on connaît, c'est le truc que tu te tartines sur la gueule quand au réveil, tu ressembles à Jean-Pierre Castaldi et que tu préférerais ressembler à Laetitia Casta tout court. Mais dans la réalité, la cosmétique, c'est un poil plus complexe.
On utilise donc la résonance magnétique nucléaire, donc la RMN. Voilà, et on travaille sur la prédiction de la stabilité des émulsions, la mesure de la capacité d'hydratation des actifs, la caractérisation des molécules présentes dans des extraits, le suivi.
Tout ça pour de la crème de jour et du mascara.
Exactement.
Oui, alors si t'as pas un master en mécanique des matériaux et aérodynamique des fluides, tu fais confiance à L'Oréal. Hein, ne cherche pas à comprendre le truc, va pas te faire un claquage au cortex. Il y a des ingénieurs qui bossent pour que t'aies une tronche qui ressemble à la pub que t'as vue dans le métro, parce que le but, hein, c'est ça évidemment, hein, le but c'est que tu achètes. D'ailleurs, pour te faire acheter, la cosmétique a des stratégies. Écoutons une personne qui bosse pour un...
Créateur de vitrine holographique, mais également de toute l'animation 3D holographique qui est projetée au sein de la vitrine. Pour le luxe, pour les retailers, mais également pour la high-tech, parce que on est capable, grâce à l'holographie, d'expliquer la technicité de produits complexes.
Ah bah déjà rien que la phrase, là j'ai pas compris tellement cette technique.
Eh bien par exemple, les points de vente se digitalisent et l'holographie est une solution digitalisante différenciante.
Ah d'accord, oui, bah c'est bon, je comprends, solution digitalisante différenciante. Parce que moi au début, comme un con, je me disais, tiens, ils ont encore sorti un parfum de merde et ils savent plus quoi inventer pour te le refourguer, vu que les meufs à poil et David Beckham en slip, ça a déjà été fait, donc ils inventent des hologrammes. Mais c'est plus subtil que ça.
On amène de l'émotion finalement aux clients lorsqu'ils visualisent nos réalisations.
Ou alors ça l'agresse.
Non, nous n'agressons pas les clients. Au contraire, on essaie de sublimer et de raconter une histoire qui l'immerge finalement dans les codes de la marque.
C'est beau ce que vous dites.
Oui, vous êtes provocateur, mais il n'y a pas de souci.
Non, attention, oh là là, non, je ne suis pas provocateur. Je suis submergé par l'émotion d'un hologramme de flacon de parfum qui me raconte une histoire. Rien que ça, ça me fout les poils. Je suis sous le charme de cette publicité, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est de la publicité, quoi.
Ah non, parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans de la pub. C'est plus de la pédagogie que l'on fait par rapport à un produit donné.
Dans le but de l'acheter quand même.
Oui, bien sûr, le but est de l'acheter. Et puis... de créer finalement une relation client, la marque, finalement, grâce à l'holographie, rentre en conversation avec le client. Et ensuite, le vendeur poursuit la conversation avec le client.
Voilà, oui, avec un terminal de carte bancaire. Belle conversation avec la phrase, vous pouvez taper votre code, s'il vous plaît. Et la bonne journée. Voilà. Fin de conversation. C'est bien, bien foutu, très innovant. Et l'avantage de l'hologramme, c'est que ça rajoute des écrans qui produisent ce que certains appellent une lumière bleue. Et il existe des professionnels de la cosmétique qui vendent de la crème pour protéger la peau contre cette prétendue lumière bleue. Pourquoi ?
Parce que c'est logique. Ça peut être compréhensible pour le consommateur, en fait, que comme il est beaucoup plus sur son téléphone, sur son écran, que ça va avoir un impact négatif. Alors qu'en fait, en réalité, il n'y a pas tellement d'études scientifiques qui montrent que c'est mal.
Mais vous en vendez logique, quand même.
Un petit peu.
Oui, bah, c'est pas la première fois qu'on vend un truc qui sert à rien. Hein. Regardez Juliette, on lui a offert un service à thé. Bon, 8 jours après, elle distillait l'amande pour faire de l'alcool dans sa cave. On peut pas dire que ça lui serve à grand chose. Donc, on achète, même si c'est pipeau, hein, d'accord. Concluons sur le thème.
Si c'est pipeau, alors pourquoi vous arnaquez les gens à en vendre?
Ah bah on les arnaque pas les gens.
Nous, on nous le demande, on le fait.
Et ben voilà, parce que c'est bien foutu. On crée des produits, on crée le besoin, on les vend. Rien n'échappe au capitalisme triomphant. Et tous les petits aménagements qu'on essaye de faire avec lui sont comme la cosmétique, somme toute très superficielle.
À cet ancien prêt, Guillaume Meurice.
Je vous en prie, merci. Votre service.
Bonne journée.
Fin de conversation.
Nina Bouraoui étant notre compagnie, on va aborder cet autre sujet avant de reparler de votre roman. L'argot a fleuri sur les champs de bataille. Il y a un long article dans La Croix paru aujourd'hui qui nous explique que l'argot, c'est la langue de la survie, de la catharsis, et qu'il s'est développé parmi les soldats. C'est l'un des rares endroits où il y a un grand brassage culturel et social. Coïncidence, ça le linguiste ne le croit pas.
Je le répéterai pas deux fois, des bretons soufflants, je te dévisse pour perpète.
Et ce mornif une bastos dans ma carafe.
Couspillé, j'aspine pas dans la pistache.
Et moi je turbine pas dans les roues flaquettes.
Ça va clapoter dans la penture.
C'est irreversé avec le rouvion.
Oh ben mince, il est mort.
Hein?
Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan.
Ah oui.
Les Inconnus, dans une parodie d'Audiard. Pourquoi aborder ce sujet avec vous, Nina Bouraoui, outre le sujet de la langue et de l'argot, bien sûr? C'est parce qu'aujourd'hui, on nous vante, par exemple, le service militaire comme un des seuls endroits où le brassage social et culturel est possible. Et dans votre livre, vous parlez du CAT, le Katmandou, un club où là, il y a un énorme brassage. Vous racontez qu'on trouve des avocates, des médecins, des ouvrières, des people, etc. Et il n'y a pas un seul mot d'argot dans votre livre.
Non, mais j'adore le grand écart des tranchées au Katmandou. Bravo, oui. C'est bien.
Oui, alors bon, non, c'est pas vrai. De comparaison, hein, mais.
Non, c'est vrai. Il y a pas. Alors, il y a peut-être quelques mots en arabe. Et puis après, moi j'ai toujours dit que j'écrivais un français qui était éclairé par la langue arabe de façon invisible, parce que j'ai grandi pendant 14 ans en Algérie, que même si la langue maternelle est le français, mon père étant algérien, bon, on parlait français à la maison, mais moi j'ai fait 15 ans d'arabe classique, et c'est vrai que ce français que j'écris est un peu orientalisé dans la façon, la structure des phrases, le souffle, la miniature... je dis souvent que je suis un écrivain légiste. Je passe beaucoup de temps sur la musicalité de mes mots.
Mais vous pratiquez encore l'arabe ? Ou vous l'avez un peu perdu du coup ?
Je sais le lire, je peux l'écrire sous une dictée, mais je ne peux pas tenir de conversation. Mais en revanche, j'écoute quand même beaucoup de musique orientale. Je reconnais dans la rue surtout le dialecte algérien, qui est un dialecte particulier. Je comprends, mais je ne peux pas... Il me manque des mots. Voilà, mais c'est une... C'est bizarre parce que je pourrais reprendre des cours, mais cette frustration, je la comble d'une autre façon, en ayant le mot juste en français. C'est un peu paradoxal, mais je suis faite ainsi.
Parmi les mots dont on a hérité, il y a Bosch, il y a Kawa, il y a Barbac. Les galeries Lafayette, vous savez ce que c'est ?
Non.
Ce sont les tranchées. Ouais. Le pouce au crime ?
C'est Guillaume Meurice.
L'alcool et le vin, et du singe, c'est la viande en conserve. Voilà, donc c'est un article passionnant hein, qui nous explique effectivement que l'argot vient
de... Oui, c'était une façon de ne pas parler de la mort, ou pas parler du sang, de poétiser l'infâme.
Exactement, et donc ce rôle de catharsis. Et sur le brassage, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore trouver dans les nuits le brassage? Ou maintenant, aujourd'hui, il y a le club pour les riches, le club pour les moins riches?
Moi, je ne sors plus trop, mais ouais. C'est vrai que dans cet endroit-là, dans les années 80, je pense aussi parce que les femmes homosexuelles n'avaient pas trop de lieux et qu'elles se retrouvaient parce qu'elles étaient, soi-disant, animées par le même désir. Mais finalement, elles étaient toutes différentes et personne ne s'entendait dans cet endroit. Il y avait des bagarres pas possibles, des disputes pas possibles, c'était assez violent, parce que tomber amoureux était presque un acte politique. Tout d'un coup, on habitait sa liberté, on habitait son courage, on n'était plus lâche, et quand ça se passait mal, quand les passions se déchiraient, la violence arrivait souvent, hélas.
Et donc, finalement, dans la communauté qui permettait quand même un brassage, c'est ça un peu
totalement, bien sûr.
Mais pour le brassage, moi je vous recommande vivement la prochaine fois de venir au karaoké de Juliette Arnaud. Il y a tous les âges, toutes les origines, et ça chante tout faux.
On est ravis de le prendre.
Clara Dupont-Mono.
Charline Manoulek.
Vous avez lu le livre de Nina
Bouraoui. Mais oui, c'est l'actualité. C'est ce livre de Nina Bouraoui qui s'intitule donc, je le rappelle, « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Alors c'est une phrase, une très belle phrase d'Aristote. Il aurait pu s'appeler « Tous les enfants désirent naturellement savoir ». Savoir quoi ? Ben, par exemple, qui sont leurs parents ? Moi, en tout cas, j'ai lu votre livre, Nina Bouraoui, comme le fait que vous avez écrit votre mère. Parce que votre mère, elle n'est pas malade comme celle de Delphine de Vigan dans Rien ne s'oppose à la nuit. Elle n'est pas mourante comme celle d'Albert Cohen dans Le livre de ma mère. Elle n'est pas maltraitante comme dans Vipère au poing d'Hervé Bazin. Elle est d'ailleurs plutôt structurante, cette mère, en tout cas de prime abord. Mais elle aime les livres et le cinéma, c'était l'extrait que nous a lu tout à l'heure Charline. Elle a du courage parce qu'elle impose son mari algérien à sa famille bretonne. Et puis elle sait s'adapter puisqu'elle s'implante en Algérie et elle vous élève, vous et votre sœur, dans la tendresse de ce pays. Ça, vous êtes d'accord ?
Totalement.
Structurante.
Oui.
Après, vous mettez en scène toutes ces zones d'ombre. C'est-à-dire que votre mère porte en elle une espèce d'errance intérieure et qui l'amène, par exemple, à s'évanouir régulièrement, comme par exemple dans l'avion. Donc, elle tombe dans les pommes, les hôtesses s'activent autour d'elle, on lève les accoudoirs, on l'allonge sur trois fauteuils et vous dites, je cite, « Je comprends ma mère. Elle veut se laisser faire, que l'on s'occupe d'elle. Elle a raison. Il est judicieux de faire appel à ceux qui savent. » Début des années 90, la situation en Algérie se durcit. Un jour, votre mère rentre avec la robe déchirée, avec des crachats dans les cheveux, avec de la suie sur la peau. Elle ne dit rien, elle s'enferme dans la salle de bain, elle prend une douche et elle ne vous en parlera plus jamais. Un autre jour au supermarché, subitement, un homme plaque sa main contre le sexe de votre mère et à votre grande surprise, votre mère ne bouge pas, elle ne dit rien. Et plus tard, elle vous dit, un peu comme quand on donne une clé à quelqu'un, elle vous dit « J'ai appris à nier ce qu'on ne peut nommer. Sans mots, rien n'existe. Tu comprends ?» Vous avez très bien compris. En tout cas, que vous soyez devenu écrivain en regard de cette phrase en dit long, puisque vous, vous serez la femme des mots, donc vous ne nierez pas. Je cite « Je rêve de livres remparts et de reconnaissance. Il me faudra des années pour déconstruire l'idée fausse que les mots protègent, réparent ou rendent meilleurs. » Et vous avez raison, les mots ne font rien de tout cela. En revanche, ils nomment. Ils font exister les choses dès lors qu'elles sont mises en langage, ce qui revient en fait à percer la nuit de votre mère. Parce que vous êtes engagé à ses côtés, au sens quasiment chevaleresque du terme, c'est-à-dire que vous êtes lié à elle par un serment muet, qu'on appelle l'amour fou. Exemple, dans la rue, vous marchez en lui tenant la main et vous avez toutes les deux un code secret. Une pression sur la main signifie « je t'aime ». Trois pressions, bonheur absolu. Zéro pression, je cite « le temps passe et il est beau quand nous sommes ensemble », ce qui est bouleversant. Conclusion en forme de serment, justement, vous dites « je veux guérir ses plaies, apaiser ses tourments. Je lui promets de la chérir, de la protéger ma vie durant. » Je la trahirai forcément et je chante la maladie d'amour parce que c'est nous. Alors cette maladie, ce sera l'errance, en fait maladie amoureusement transmissible, parce que votre livre raconte aussi vos errances nocturnes dans Paris, dans le milieu homosexuel, où vous avez honte de votre homosexualité. En fait, vous vous portez vous-même comme un fardeau, comme si vous étiez lesté des souvenirs d'Algérie et de celui de votre mère. Alors en même temps, tout ceci vous a permis d'être vous. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. C'est un livre, en fait, qui associe le poids et l'envol. Parce que des thèmes comme la mémoire, comme la différence, comme le déracinement et bien sûr la mère, vous en rendez la pleine dimension à la fois de grands chagrins et de profondes richesses. Ce qui fait que vous êtes devant nous en ce moment-là. Je vous redonne les références. « Tous les hommes désirent naturellement savoir » de Nina Bouraoui est paru chez Lattès.
Merci Clara Dupont-Mono.
Merci, c'est très émouvant. Peut-être juste dire que ma mère ne s'évanouissait pas. En fait, elle souffrait d'asthme. Alors c'était une façon d'étouffer du réel aussi et de se destituer du réel et de nous quitter de temps en temps. Mais je trouve c'est très beau parce que c'est vrai, c'est une grande déclaration d'amour à ma mère. Et qu'au départ, je voulais écrire un livre sur ma mère. Et puis très vite, je me suis rendu compte que nous ne savions pas qui étaient ceux qui nous avaient donné la vie, comme nous ne savons pas qui sont vraiment nos ancêtres, et que nous sommes des héritiers d'une histoire, en fait, que nous ne connaissons pas. Et si je remonte très, 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 très loin, moi, j'ai toujours le fantasme de me dire que nous venons du premier homme, de la première femme, que nous venons de leur séisme, de leur guerre, de leur sauvagerie, de leur peur, et qu'en nous, nous portons encore cette part de sauvagerie, et que peut-être être adulte, pour revenir à ces adolescents un peu fous qui disent n'importe quoi au sujet de ce roman, peut-être qu'être adulte, c'est dompter sa part sauvage.
Nina Bouraoui, qu'est-ce qu'on peut ajouter après du Nina Bouraoui?
On n'est pas trop adulte, là. Personne n'a dompté sa part
mieux,
sauvage.
Tant mieux, tant mieux. On voudrait jouer un peu avec vous, Nina.
Oui.
On a un sketch à vous proposer, si vous êtes d'accord.
Tous les jours, on propose un petit sketch à l'invité qui y découvre le texte. On a voulu traiter un sujet un peu dramatique ou rigolo. Il y a plusieurs agences Pôle emploi qui ont organisé des sessions de recrutement inspirées du télécrochet, pardon, The Voice. Voilà, donc des recruteurs. C'est une vraie info, quoi. Des recruteurs assis sur des fauteuils rouges qui tournent le dos aux chercheurs d'emploi interviewés et ne se retournent que s'ils sont convaincus, c'est The Job.
This is the job.
Bonsoir à tous, ils sont 5 talents sans emploi, désœuvrés, délaissés, désemparés, 5 talents dans la course pour trouver un emploi et pour les recruter, notre jury, Amel et Jennifer.
Salut Nikos, on est heureuses d'être là.
Ouais, sans des émissions comme ça, c'est nous qui chercherions du travail.
Ouais, alors c'est parti pour les auditions à l'aveugle avec notre première candidate, Sophie.
This is the job.
Oui, alors je m'appelle Sophie, j'ai eu cumulé les CDD à la poste pendant 3 ans.
Amel, vous vous êtes retournée. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez cette postière? Est-ce que c'est son timbre?
Ouais, je trouve qu'elle a un véritable univers, une légèreté, un moment de grâce que j'avais pas vu depuis la démission de Nicolas Hulot.
Et vous, Jennifer, pas trop envie de la recruter?
Non, je l'ai sentie trop gauloise, un peu creuse et insipide.
Creuse et stupide, nous dit Jennifer.
Non, insipide.
Ouais, attention, pas trop de vocabulaire, on est sur TF1. Alors, Sophie, vous rejoignez l'équipe d'Amel. Accueillons notre second participant, Bernard.
This is the job.
Bonjour. J'ai 50 ans.
Ah, je t'arrête Bernard, si tu commences comme ça, personne ne voudra te peser, hein.
Alors non, attendez, j'ai un doctorat en philologie romaine.
Et c'est perdu Bernard, c'est perdu. Notre candidat suivant est Eric.
This is the job.
Oui, je suis Eric, je suis au chômage depuis 4 ans.
Ah, ça 4 ans, c'est formidable Eric.
Bah, j'étais ouvrier dans la métallurgie pendant 7 ans, ouais. Puis suite à un licenciement économique, bah, j'ai plus trouvé de boulot.
Ah.
Oui, ça, j'achète.
Ah,
moi, je te prends dans mon équipe, Eric.
Ah bah non, j'ai buzzé avant.
Alors, attendez, dans ce cas, c'est Eric qui choisit.
Ah bah, si tu viens dans mon équipe, je te donnerai 2 jours de congé payé en plus.
Chez moi, tu cotiseras plus pour ta caisse de retraite.
Alors, attendez, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, de voter par SMS au 7-12-12. Ça ne coûte que l'équivalent d'une baisse d'APL à tous les SMS. On passe tout de suite à la battle.
This is the job.
Alors vous, Sophie, vous pouvez démarrer.
Oui, alors moi je viens de perdre mon travail, je voulais simplement m'inscrire à Pôle emploi en fait.
Très bien, beaucoup d'émotion et de sincérité, à vous Eric.
Bah, moi ma femme a demandé le divorce, alors j'ai plus d'allocation, je vais me faire expulser.
C'est génial Eric, fabuleux, alors qu'est-ce qu'on a pensé le jury?
Moi je trouve qu'Eric a été assez direct, mais il veut un peu trop nous tirer l'alarme, ça se ressent.
Ouais, moi j'ai aimé la prestation de Sophie, mais je l'ai trouvé un petit peu coincée avec son CV sous le bras.
Merci Amel, alors c'est le grand moment, les téléspectateurs sont en train de voter. Ah, il n'y a qu'un vote, c'est celui d'Emmanuel Macron qui vous dit vous n'avez qu'à traverser la rue, bande de feignasses.
Mais c'est honteux.
Allez, on fait rentrer les CRS pour dégager les chômeurs, c'est la fin de l'émission. À suivre Koh-Lanta version Alok, on lancera un os de poulet entre deux crèves la faim pour les départager. A tout de suite pour Alok-Lanta.
Merci les amis et merci à Nina Bouraoui d'avoir joué le jeu.
Et pardon à Nina Bouraoui.
On reçoit Nina Bouraoui, on fait que des conneries.
Oh, c'est bien, tant mieux. Moi j'en fais beaucoup aussi.
Oh non, il y a le papier de Clara.
Heureusement qu'Albert Camus est mort.
Non mais je tiens à dire, et toutes les filles sont d'accord avec moi qui avons lu le livre, que « Tous les hommes désirent naturellement savoir » paru chez Jean-Claude Lattès de Nina Mouraoui. C'est un roman vraiment qu'on a adoré, qu'on vous conseille chaleureusement, vraiment, hein, toute sincérité.
Oubliez tout ce que vous avez entendu.
Exactement. Merci Nina Mouraoui. C'est la fin de cette émission et Nina Mouraoui, on vous laisse le mot de la fin parce que je crois que vous avez remarqué mon petit manège.
Pour votre question, il y a toutes les réponses. Parce que je
c'est pas mon habitude.